Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est maintenant 16h, temps universel, 17h à Paris, 18h à Tel Aviv.
Charlotte Hydrac.
Et à la une, les premières libérations de 3 otages israéliennes dans la bande de Gaza. Elles ont été transférées à l'armée israélienne. Conséquence de l'entrée en vigueur de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Il prévoit aussi, cet accord, la levée des restrictions de l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Les camions d'aide ont commencé à entrer dans l'enclave. À suivre aussi Donald Trump, le retour. Le président américain prêtera serment demain et avant même son investiture, il promet de suspendre la loi interdisant TikTok aux États-Unis. L'application est devenue inaccessible aujourd'hui sur le territoire américain. Et puis en Corée du Sud, après la décision de la justice de prolonger la détention du président déchu Yoon Suk-yeol, le tribunal a été pris d'assaut par ses partisans du jamais vu dans le pays. Oui, les 3 premières otages israéliennes retenues dans la bande de Gaza ont donc été libérées cet après-midi au premier jour de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Nicolas Falaise, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv, vous êtes en direct. Les 3 civils ont d'abord été pris en charge par la Croix-Rouge, puis transférés, c'est ça, à l'armée israélienne.
Oui, Charlotte, c'est confirmé. Hein. Et juste avant cela, les images qui nous sont parvenues ces dernières minutes de la bande de Gaza ont montré un véhicule blanc affichant le logo du Comité international de la Croix-Rouge. Le véhicule se frayant un chemin dans une foule compacte. Des images très floues ont alors permis d'apercevoir à l'intérieur les silhouettes des otages libérés. Des hommes en armes, masqués, portant l'uniforme de la branche armée du Hamas, se trouvaient à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Message très clair, hein, donc le Hamas palestinien affiche sa présence en armes à Gaza dans les premières heures du cessez-le-feu. Le Hamas qui affirme avoir remis les 3 jeunes femmes au CICR dans le quartier d'Al Rimal, c'est dans l'ouest de la ville de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien ajoute que les équipes du CICR ont pu rencontrer les ex-otages, s'assurer de leur état. Le CICR qui a ensuite donc remis les 3 jeunes femmes à l'armée israélienne.
Et qui sont, Nicolas Falaise, ces 3 jeunes femmes libérées ?
Romy Gonen, 24 ans, enlevée au festival de musique Nova où l'on dansait encore à l'aube du 7 octobre 2023 lorsque le Hamas a lancé ses attaques. Émilie Damari, 28 ans, et Ronan Steinbrecher, 31 ans, toutes deux kidnappées au kibbutz Kfar Aza, l'une de ces localités proches de la bande de Gaza qui ont été prises pour cible par les assaillants du 7 octobre.
Et que se passe-t-il alors pour elles maintenant ?
Eh bien, alors où nous parlons, hein, les ex-otages sont transférés à l'hôpital Sheba dans la banlieue de Tel Aviv, où un protocole de soins et d'examens médicaux a été mis en place ces derniers jours. Elles vont bien sûr retrouver leur famille aussi. La minutieuse opération israélienne de retour des otages a été baptisée les ailes de la liberté. Liberté retrouvée donc ce soir pour ces 3 jeunes femmes après 15 mois de captivité.
Nicolas Falaise, en direct désormais de Jérusalem, pardon. C'est donc le début d'un processus, une première phase qui doit durer 6 semaines, marquée par la fin des opérations armées depuis ce matin, 9h15 temps universel, avec près de 3 heures de retard. Et la fin aussi des restrictions israéliennes à l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant dans la bande de Gaza, ravagée après 15 mois de guerre. L'accord de trêve prévoit l'entrée de 600 camions d'aide par jour, donc comme avant le début de la guerre. Alice Moreno, vous êtes au point de passage de Rafah, entre l'Égypte et la bande de Gaza, et vous l'avez constaté, hein, les camions affluent.
Oui, ici à Rafah, les camions continuent de franchir les hautes grilles du poste frontière. Des camions citernes remplis de carburant, mais aussi des vivres sur lesquels on peut voir apparaître les logos de l'UNVRA et d'ONG du monde entier. Un ballet de semi-remorques qui se déroule sous les objectifs de plusieurs dizaines de caméras. L'État égyptien a organisé une couverture médiatique très conséquente pour immortaliser la reprise de l'envoi d'aide humanitaire, a permis à une centaine de journalistes d'accéder à la zone traditionnellement interdite à la presse. Déjà, 197 camions d'aide humanitaire et 5 camions de carburant ont quitté le territoire égyptien depuis ce matin. Ils ont transité par une porte annexe du poste frontière de Rafah, direction Kerem Abou Salem et Nitzana sur le territoire d'Israël. Les camions ne transitent pas directement de l'Égypte vers Gaza, officiellement, car la route de Rafah qui mène au territoire palestinien est trop endommagée par des mois de combat. Et le passage par Israël est aussi prévu dans l'accord de trêve, ce qui permet à l'État hébreu de garder la main sur l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza.
Cet accord qui crée des remous politiques en Israël, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a démissionné. Son parti d'extrême droite, Force juive, a quitté la coalition au pouvoir. Et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lui, menace de faire la même chose si Israël ne reprenait pas la guerre après la première phase de cessez-le-feu de 6 semaines. J'ajoute ces propos il y a quelques minutes du président américain sortant. Joe Biden se félicite du cessez-le-feu dans une région, dit-il, fondamentalement transformée. Joe Biden qui s'apprête à passer la main demain à Donald Trump, dernier préparatif à Washington pour sa cérémonie d'investiture. Le président américain Donald Trump a déjà promis de signer un nombre record de décrets présidentiels dès sa prestation de serment. Parmi ses priorités, son programme d'expulsion d'immigrés clandestins ou encore la hausse des droits de douane. Un programme choc qui inquiète notamment en Allemagne, Nathalie Versieux.
Seuls quelques ultra-libéraux misant sur une refonte de l'ordre mondial pour faire prospérer leurs affaires voient d'un bon œil le retour de Donald Trump aux affaires. Ils sont peu nombreux. Le second mandat Trump fait l'effet d'une douche froide à la majorité des Allemands, sonnée par un certain nombre d'études à ce sujet, comme celle qui prévoit 300 000 suppressions d'emplois dans le pays dans le sillage de l'augmentation probable des droits de douane, ou celle qui estime à 180 000 milliards d'euros sur 4 ans, les dommages que la nouvelle administration feront peser sur l'économie allemande. Sans parler de la nouvelle exigence de Trump de faire porter à 5% du PIB les dépenses militaires des membres de l'OTAN, l'Allemagne venait péniblement d'atteindre la barre des 2%. Le camp conservateur qui pourrait revenir au pouvoir en Allemagne autour de Friedrich Merz se prépare en tout cas à une coopération houleuse avec l'hôte de la Maison Blanche. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et avant même son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump annonce qu'il va prendre un décret dès demain pour suspendre la loi interdisant TikTok. La plateforme chinoise interdite aux États-Unis, elle est devenue inaccessible aujourd'hui pour les utilisateurs. Mais le président américain propose un actionnariat américain à 50% pour la filiale de TikTok aux États-Unis. La colère des partisans du président déchu en Corée du Sud après la décision d'un tribunal de Séoul de le maintenir en détention. Des manifestants furieux ont fait irruption dans ce tribunal en brisant des vitres, en forçant les entrées du jamais vu dans le pays. Yoon Suk-yeol, qui est sous le coup de plusieurs enquêtes pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre, la justice a décidé de le maintenir derrière les barreaux pour une durée de maximum 20 jours. C'est ce que demandaient les enquêteurs et c'est donc ce qui a provoqué ces violence, Célio Foretti.
Une nuit de violence qui a commencé lorsque l'arrestation du président Yoon Suk-yeol a été confirmée par la justice. Réunis devant le bâtiment, les partisans du président ont pénétré dans le tribunal pour le saccager en signe de colère contre la décision des juges, comme le montrent de nombreuses vidéos amateurs. Des violences qui divisent même au sein des pro-Yoon. Park Jong-suk était présent, il raconte.
J'étais là vers 4h du matin, les gens se sont excités, surtout les jeunes. Ils sont rentrés de force, ont soulevé les grilles et cassé les vitres. Il y a eu des blessés de tous les côtés. Nous ne voulions pas utiliser la violence, mais certains pensent que cela relève du droit de résistance du peuple face à une justice corrompue.
Ce matin, aux abords du tribunal, bris de verre et barricades sont sur le trottoir. Pour beaucoup, comme ce passant incrédule, les images des violences sont particulièrement choquantes.
C'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Cela met en péril l'existence même de notre démocratie. De tels événements ne devraient pas se produire et les forces qui les encouragent sont le véritable problème.
Une centaine d'émeutiers ont été arrêtés, aucun blessé grave n'est à déplorer, mais la crise politique sud-coréenne prend un tournant violent qui inquiète une grande partie de la population. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
En France, l'avenir du nouveau Front populaire en question après la décision du Parti socialiste de ne pas voter la censure contre le gouvernement Bayrou cette semaine. Selon Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, invité de nos confrères RTL Public Sénat tout à l'heure, le PS, dit-il, n'est plus un partenaire, c'est un allié. Et encore de circonstances. Fin de citation, on y reviendra dans Dimanche politique avec Philippe Le Caplain tout à l'heure à partir de 19h, heure de Paris. Pour l'heure, Hugo Moissonnier et toute l'équipe de Mondial Sport. Bonne émission.